Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Deux rixes mortelles en 24 heures, vous le savez. Un adolescent de 14 ans est mort ce mardi à la suite d'un nouvel affrontement entre bandes de jeunes dans l'Essonne. Moins de 24 heures, donc, après le décès dans ce département d'une collégienne de 14 ans poignardée lors d'une rixe entre mineurs. Gérald Darmanin a annoncé l'envoi dès hier soir dans ces deux villes de renfort des forces de l'ordre. 60 gendarmes à Saint-Chéron et 30 policiers à Boussy-Saint-Antoine. Et c'est le ministère qui a communiqué. Mathieu est avec nous. Votre avis sur le partage des responsabilités?
C'est-à-dire, comment exprimer clairement cette violence, elle a une origine. C'est peut-être à l'origine qu'il faut trouver des solutions. Je ne suis pas sûr que, en culpabilisant des parents qui font peut-être pour beaucoup déjà ce qu'ils peuvent, et bien, d'autres qui sont peut-être aussi un peu plus désintéressés de l'éducation de leurs parents, ou d'autres qui sont désemparés, ça arrive aussi. Mais il faudrait peut-être ajouter quelques nuances, parce que dans le discours du ministre de l'Intérieur, on a l'impression, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est mon interprétation, qu'en gros c'était un peu tous les parents qui étaient responsables, et je suis pas sûr que ça soit vrai. Moi j'ai grandi dans un quartier, je suis pas devenu ultra-violent, enfin j'ai pas fini ultra-violent, et mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils étaient très respectables, et ils n'ont pas été au courant de la moitié de ce que j'ai fait. Donc,
non, ce qu'a voulu sans doute pointer le ministre, c'est qu'il a voulu responsabiliser les parents. Alors chacun sait qu'il n'y a pas que les parents, bien sûr, mais convenez qu'un enfant, il grandit, il est d'abord dans le cercle familial.
Exactement.
Alors chacun sait les difficultés parfois des familles, les familles monoparentales, etc. Mais il n'empêche, c'est une manière de dire aux parents, attention, faites attention, vous êtes les premiers responsables.
C'est un peu vrai, mais c'est aussi...
Et c'est sans doute vrai qu'ils sont les premiers responsables, les parents, objectivement, de leurs enfants.
Effectivement, je pars du principe que tous les enfants naissent neutres, entre guillemets, sans aucune violence innée, enfin, normalement, je dirais, et que c'est un peu leur conditionnement, leur éducation qui va les amener, mais pas toujours. Et puis en plus, ce que je veux dire, c'est que ça touche tous les milieux aussi. Ce qui m'avait percuté hier quand j'écoutais l'émission, c'est que beaucoup de gens vivaient de la peur, et on parlait souvent de jeunes qui avaient un vocabulaire ou des origines sociales, ethniques et tout ça. Ce qui est un peu gênant, parce que c'est pas tout à fait vrai non plus. Et ces jeunes, c'est des ados, comme tous les ados, il y a beaucoup de moments de frustration, de crise, d'incompréhension. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où on n'a pas notre société ou nos institutions, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait raté?
Ça peut pas être que les parents. La société peut être responsable, mais peut-être pas comme vous l'entendez aussi, parce que certains disent que la société, elle n'est pas assez répressive. C'est-à-dire que pour ces jeunes gens, au premier écart à 11 ans, 12 ans, 13 ans, ils devraient avoir peut-être une réponse infiniment plus forte qui soit aussi dissuasive. Alors prévention d'un côté et sanction de l'autre, certains le disent.
Il faudrait voir un petit peu, je ne les connais pas les statistiques, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sociaux, d'éducateurs spécialisés, de psychologues sur le terrain. Il faudrait voir si, statistiquement parlant, il n'y a pas quand même de la réussite dans le dialogue et la bienveillance. Je ne peux pas vous le dire, ça, j'ai
forcément,
pas les chiffres.
C'est souvent plus efficace.
Chaque individu est différent, vous savez, c'est nuancé. Moi, j'avais un père militaire, il avait beau être extrêmement ferme, ça n'empêchait pas d'être un rebelle malgré tout, si je puis dire. Vous voyez, et j'ai fait des bêtises qu'il n'a jamais su. J'ai été en garde à vue, il l'a jamais su.
Et comment vous pouviez être en garde à vue sans que votre père le sache? Vous rendrez quel âge vous aviez?
Je venais d'avoir 18 ans, c'était ballot.
Oui, donc à 18 ans, effectivement, on est un peu plus de liberté. Mais quand t'as 13-14 ans, à mon avis, si t'es en garde à vue, quoi, même tes parents sont immédiatement prévenus.
Je pense que honnêtement, c'est bienveillant. Je trouve pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses pour des violences pareilles. Mais il y a certains environnements, certains milieux dans lesquels on peut évoluer, où on vit avec de la frustration, de la colère continuellement. C'est là-dessus qu'il faudrait travailler, et ça nous rend violents. Je l'ai été, j'étais extrêmement agressif et tout le temps dans l'appréhension d'un jugement de valeur ou d'un regard de travers. Et on vit dans un cercle vicieux étouffant. Et je crois que la violence, c'est parfois un moyen d'avoir de l'adrénaline, de se sentir vivant. Alors que j'ai de la chance, moi, ce qui m'a sauvé, c'est la culture et le sport, c'est les arts, la musique. Mais peut-être que d'autres n'ont pas ce déclic-là, voyez-vous.
C'est important ce que vous dites, parce que les jeunes ne peuvent pas faire de sport en ce moment. Et souvent, à ce micro, on a dit que c'était dommage, parce que tout est fermé. Et la tension de la société actuellement, ces jeunes-là qui n'étaient pas à l'école parce qu'ils sont en vacances et qui ne peuvent pas faire de sport. Toutes les salles sont fermées et tu ne peux même pas faire de sport en extérieur. Donc c'est quand même extraordinaire.
Il y a peut-être d'autres choses qu'il faudrait revoir, parce que cette frustration, cette colère, on peut peut-être bien sûr avoir un exutoire sportif ou intellectuel ou artistique, mais peut-être qu'il n'y a pas les bons codes, pas les bonnes valeurs qui sont inculquées. Le développement personnel, l'estime équilibrée de soi, des choses comme ça. Quand on est dans certains milieux, je peux vous assurer que c'est toujours celui qui a le plus fort ego, qui veut toujours se faire respecter pour des raisons idiotes, avec des codes idiots.
Oh, parfois c'est tout milieu, ça, vous savez. En tout cas, merci Mathieu pour ce premier témoignage.
Merci à vous.
Merci, vous appeliez de Metz. Vous êtes graphiste. Il est donc 13h08. Je salue Boris Pirédou et j'espère qu'on pourra passer quelques chansons de Sheila, puisque Sheila a annoncé ce matin qu'elle allait publier, éditer son 27e album. Donc ça serait bien. Elle a 75 ans, Sheila. Et elle est dans nos vies depuis toujours. Moi, j'ai toujours connu Sheila. Donc, Laurent Tessier, bonjour. Hein, quelle est votre
chanson ? Je vois bien chanter vous, les copains, je ne vous oublierai
jamais.
Alors
ça, c'est la première époque de Sheila, mais les Rois Mages, c'est la deuxième époque. Et puis elle avait fait une chanson qui s'appelait Tango, qui était un peu différente, qu'on pourra peut-être écouter tout à l'heure. À tout à l'heure.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Laurent Tessier, bonjour. On n'a pas de sujet. Ah, ça, c'est Sheila. Ah,
ouais, voilà, c'est votre chanson.
Ça, c'est une autre Sheila. Tang O A U.
Formidable.
Ça, c'est une chanson de début des années 80. On pourra parler également du temps aussi, parce qu'il fait tellement beau. Peut-être que nos auditeurs ont envie de nous appeler d'une plage de l'Ouest. C'est peut-être la dernière journée où il fait aussi beau.
La Baule Pornichet, par exemple. C'est notre lobby de la Loire Atlantique, là, qui
non,
parle.
Non, mais c'est vrai qu'il fait tellement beau. Les gens que j'ai au téléphone disent « Oh, je suis en vacances, c'est formidable !» Donc, appelez-nous
alors
si vous voulez
parler. Alors qu'il neigeait il y a deux semaines.
Appelez-nous. Oui, il n'y a plus de saison. Mais appelez-nous si vous voulez parler du temps.
Deux adolescents de 14 ans sont décédés en moins de 24 heures lors d'affrontements entre bandes de jeunes dans l'Essonne. Vous réagissez sur ce sujet depuis le début de l'émission. Comment en est-on arrivé là? Comment lutter contre ces rixes? Marc est policier dans ce département. Il nous avait appelé hier au 3210.
Avant, les bandes, elles étaient entre 20 et 22 ans, 23 ans. Maintenant, c'est des mômes de 13 à 17 ans. Et eux, par contre, ils ont une violence qui est totalement exacerbée, totalement désinhibée. Pour eux, en fait, donner un coup de couteau ou donner un coup de batte de baseball dans la tête à quelqu'un ou lui écraser un parpaing sur la tête, c'est pas un problème.
Les renforts policiers peuvent-ils être suffisants? Y a-t-il un manque d'autorité parentale? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris la parole.
Que la société n'est pas responsable de tout. Les policiers, les gendarmes, les maires ne peuvent pas faire à la place des parents une autorité qui consiste à ne pas sortir seul le soir quand on est un jeune adolescent, de ne pas avoir ce qui était le cas. Des béquilles, des armes blanches, des barres de fer. Les parents ont un devoir d'autorité.
Peut-on tout mettre sur le dos des parents? La violence est-elle plus marquée aujourd'hui chez les moins de 18 ans? Elle s'est banalisée, déplore Thierry sur la page Facebook de l'émission. Ils grandissent avec les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Ils ne savent plus ce qui est réel, virtuel. Pour Christine, l'État ne peut pas tout faire. Les parents doivent prendre leurs responsabilités, rajoute Fred. Marc dénonce le phénomène, vous savez, de l'enfant roi. À force de faire la morale aux parents sur la façon d'éduquer, on en arrive là. Et Ingrid parle de père et mère débordés, sans oublier le manque de soutien extérieur.
Merci Laurent, on se retrouve évidemment tout à l'heure. On est avec David. Bonjour David.
Bonjour.
Le Jura. Bonjour. Sur ce sujet très grave, bien sûr, de rixes mortels en 24 heures.
D'abord, merci de me recevoir, Pascal, dans votre émission.
Je vous en prie.
Alors oui, je suis en colère, mais pas vraiment surpris de ce qui se passe actuellement en France. Oui, on peut remettre, comme Monsieur Darmanin le dit, la faute aux parents. Mais la faute aux parents, des fois, les parents sont un petit peu dépassés par les choses, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont pas là forcément le soir. Alors c'est dur de dire oui, les parents doivent garder les enfants le soir. Bah ouais, mais s'il y a personne pour les garder, comment on fait? Et puis une deuxième chose, j'ai envie de dire, Monsieur Darmanin, je suis un petit peu en colère contre lui. Parce que c'est une politique qu'on a eue depuis 30 ans où, tout simplement, il y a un laxisme total de la part de la justice, où on excuse tout. Alors là, moi, j'ai envie déjà de parler par rapport à ces deux vies perdues à 14 ans. J'ai envie de penser aux parents, parce que ben demain, ils verront plus leur enfant. Et quelque part, moi, ça me chiffonne, quoi. Et alors, pour revenir à M. Darmanin, là, il arrive avec ses gros sabots, et puis il va dans l'Essonne, et puis il va arriver avec 80 bleus. Alors, je les appelle les bleus, hein, parce qu'il y aura la gendarmerie, il y aura peut-être la police municipale et la police nationale. Mais les bleus, en fait, est-ce qu'ils sont eux-mêmes respectés? Ah, ils vont être respectés parce qu'ils vont être 80. Mais ils vont être respectés parce qu'ils vont être là pendant quoi? Une semaine, grand maximum. Mais est-ce qu'on va régler les problèmes de fond? Les problèmes où, pendant 30 ans, on a déversé des milliards sur les cités pour un petit peu faire atténuer la violence. En fait, on achète les gens et puis voilà, on va dire, tiens, ça va se calmer. Mais non, rien n'a été calmé.
Là, on ne sait pas si c'est une bagarre entre cités. Hein. On n'a pas d'événements, d'éléments sur les gens qui se sont affrontés. On sait que ce sont simplement des bandes rivales. Une était plus haut de Saint-Chéron, l'autre était plutôt de Dourdan. Je ne connais pas le profil des gens qui se sont battus, si j'ose dire. Je ne sais pas. Je sais simplement qu'ils étaient entre 13 et 17 ans, 14 et 17 ans, mais je n'ai pas d'autres informations.
Moi, j'ai 50 ans. Moi, j'ai connu ce truc de bande, vous savez. Alors, on était les bandes de gars qui écoutaient du hard, de la new wave, tout ça. Et peut-être que des fois, on se maillotchait. Mais là, on arrivait quand même à une génération de 12-14 ans qui mettait des coups de couteau.
Oui, vous avez raison. Avant, on prenait une chaîne de vélo et maintenant, on peut mourir.
Ah ben maintenant, un regard. Regardez Calogero. Calogero, quand il chante pour un regard, tu perds la vie. Mais c'est ça. Donc maintenant, tu n'as plus le droit de regarder en face.
Mais ce que vous voulez dire, c'est laxisme judiciaire. En tout cas, j'écoutais Alain Bauer ce matin, qui est donc le professeur de criminologie que chacun connaît. Il disait que depuis 40 ans, il n'y a pas une politique cohérente, centralisée sur ce sujet-là de la délinquance de jeunes. Voilà. Il y a parfois des initiatives ponctuelles, mais il n'y a jamais eu de politique centralisée. Et il semblait évidemment le regretter.
Mais Pascal, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Qu'est-ce qu'on fait? On met des petits pansements sur des bobos. Mais là, il y a la gangrène, là. Il faut couper. Il faut couper.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais la justice, ils s'excusent. Ce n'est pas des juges, ce n'est pas des procureurs. C'est des assistantes sociales. Écoutez, moi, je suis issu d'une famille.
Mais qu'est-ce que vous faites avec un jeune, par exemple, de 13 ans, 14 ans, qui sort des clous? Ça m'intéresse. Quelle est votre réponse pénale? Qu'est-ce que vous lui proposez?
Déjà, on va revenir à l'origine. Vous, comme moi, quand on était à l'école, déjà, quand il y a une personne qui arrivait en classe,
je suis d'accord, mais bon, l'autorité, tous les jours, on en parle.
On chantait la Marseillaise. On allait au monument des aux morts. Donc, il y a toutes ces petites choses où il y avait un respect. Maintenant, il n'y a plus de respect. Les jeunes, comme l'a dit l'auditeur hier, ils s'appellent gros, ils s'insultent et tout ça. Il n'y a plus de respect. Les jeunes ne se respectent plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme exemple? Ils ont les grands frères qui, eux, ils ne jouent pas avec les couteaux, ils jouent peut-être avec les pistolets ou les kalachnikovs. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, déjà, il y a une chose qui est très simple. On arrête de distribuer de l'argent à des gens qui ne respectent rien. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu ne respectes pas le pays qui t'accueille, qui te donne le droit de l'école.
C'est la deuxième fois que vous allez sur ce terrain. Le pays qui t'accueille, d'abord, je ne sais pas de qui vous parlez, en fait, lorsque vous dites précisément. Les deux bandes qui se sont affrontées hier, on n'a pas d'éléments particuliers sur leur origine.
Ah non, il n'y a pas du tout d'origine. Alors là, je ne mets pas du tout de problème d'origine par rapport à ça. Je dis qu'en France, chaque personne qui vit en France doit respecter l'autre. Voilà,
oui,
c'est une éducation.
Là-dessus,
ensuite,
on sera d'accord.
La première chose qu'on doit respecter, c'est les forces de l'ordre. Est-ce que les forces de l'ordre sont respectées? On leur tire à coups de mortier à tout va, à coups de mortier. On les insulte, comme l'a dit hier votre auditeur qui était de policier ou gendarme. C'est juste si on le menace pas quand il y a des gardes à vue. Allons-y. Moi, dans mon époque, un gendarme, on le respectait. Et même aujourd'hui, je vais pas lui dire, je vais te péter la tanche parce qu'il va me mettre une amende. C'est quoi? Un policier aujourd'hui, on lui fonce dessus. Écoutez quand même, c'est que ça va me faire. On vit dans une époque formidable. Un policier, il se fait foncer dessus. Il sort son arme, il tire. On va mettre le policier en garde à vue, parce qu'il n'a pas le droit. Écoutez, il y a légitime défense. Alors, c'est le premier pays. Hein. Alors, dans les autres pays, on va le décorer parce qu'il a fait quelque chose de bien. En France... Eh ben non, c'est pas possible. Les juges.
J'ai compris, David, le sens de la politique pénale que vous réclamez peut-être. Et je vous remercie parce qu'on va marquer une nouvelle pause. Et c'est intéressant, évidemment, d'échanger ensemble sur ce sujet. Là où David n'a pas tout à fait tort, c'est que l'autre jour, par exemple, un Black Bloc a été jugé. Et effectivement, ce Black Bloc s'en était pris fortement à un policier. Et effectivement, la peine qu'il a eue peut apparaître légère, c'était 10 mois de prison ferme. Il en avait déjà effectué 2, il est d'ailleurs toujours en prison et avec la remise de peine, il pourra sortir dans quelques jours. Et les syndicats de police ont dit, on attaque les policiers et regardez, lorsqu'on chope, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, lorsqu'on chope un Black Bloc, bah, il s'en sort à bon compte. Donc ça, c'est pourquoi pas une piste. C'est pas exactement le sujet des bandes rivales, mais c'est l'autorité des policiers dont parlait David. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
On se fait une petite playlist Sheila, même si c'est léger Sheila, alors que le sujet dont on parle est particulièrement lourd, avec ces deux adolescents tués hier en Essonne. Le témoignage de Marc hier a beaucoup frappé, hein, ce témoignage d'un policier. Je l'ai réécouté d'ailleurs ce matin chez Julien Cellier. C'est vrai que ce qu'il nous disait était tout à fait étonnant. Et nous sommes de nouveau avec un policier qui s'appelle Cédric. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez peut-être entendu votre collègue hier qui a travaillé, hein, qui travaille dans l'Essonne, et on était à la fois abasourdi et oui. En même temps, finalement, on sait que ça peut se passer comme ça. Mais ce qui était frappant hier, c'est la jeunesse des gens parfois que vous avez en face de vous dans votre commissariat, Cédric.
Alors, le problème, c'est que je vais aller dans le sens de mon collègue. Moi, j'ai travaillé dans l'Essonne et j'ai habité à Épinay-sous-Sénart il y a 25 ans environ. Et il y a 25 ans, il y avait déjà ces bandes, il y avait déjà ces bagarres, mais c'était des gens un petit peu plus âgés, 16, 17 ans. Mais quand vous faites le calcul, bah les enfants qui se sont battus hier, et puis bon, je tiens à rendre hommage aux deux victimes, évidemment, parce que c'est toujours triste la perte d'un enfant, bien évidemment. Mais si on fait le calcul, ces enfants qui se sont battus hier, ce sont les enfants de ces personnes qui se battaient il y a 20 ans, hein. Il y a 20 ans, 25 ans. Donc, on n'a rien éradiqué, on n'a rien changé dans ces banlieues. J'ai habité dans un quartier, je peux vous donner le nom, c'est les Gerbeaux à Épinay-sous-Sénart. On rentrait le soir, la boule au ventre. Pourtant, j'étais déjà dans la police. Hein. On rentrait la boule au ventre, on cachait les voitures, on se cachait nous-mêmes quasiment, parce qu'on avait des bagarres, on avait des bandes qui se battaient. J'ai travaillé là, j'ai travaillé aussi à Grigny-la-Grande-Borne, à Évry, au Tarteret, etc. Toutes ces belles cités qu'on a laissé, parce qu'on n'a rien fait depuis 30 ans. Alors quand j'entends mon ministre hier qui dit on va mettre 80, 60, 80, 100 policiers, on peut en mettre 1000. Les jeunes connaissent tous les passages, ils connaissent toutes les sorties de secours, ils connaissent toutes les entrées d'immeubles. Nous on y va, on a le GPS pour aller là-bas. Parce qu'on ne connaît pas, on y va très très rarement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec 80 policiers? On va encore verbaliser les gens qui vont rentrer, qui n'auront pas leur attestation à cause du Covid. Ça, c'était le premier point que je voulais vous aborder. Le deuxième, c'est on dit les jeunes ne font plus de sport en ce moment à cause du Covid, les associations, tout ça, c'est fermé. C'est vrai, mais on a construit combien de city-stades? On a construit combien d'équipements sportifs partout qui sont inutilisés parce que les jeunes n'ont plus la volonté. Ils n'ont pas la volonté d'eux-mêmes d'aller faire du sport. Ils n'ont pas la volonté
ça,
d'eux-mêmes.
Ça peut quand même se forcer un peu par des éducateurs et on peut mettre du personnel de l'État qui peut encourager... Des entraîneurs, pourquoi
l'État
pas,
ne peut pas être derrière. Non, mais l'État ne peut pas être derrière. Tout le monde en a fait des
non, mais ça,
on a fait des
on peut
partout.
Quand même. Pourquoi attendez, le sport, ça peut être. On peut sensibiliser les plus jeunes parce que traditionnellement, des sports co, notamment, ça peut intéresser les jeunes.
Oui, mais les sports co, maintenant, ils les font sur quoi? Sur FIFA 2016? Sur FIFA 2020?
Bah,
sur
justement,
FIFA 2021 Non, mais le problème, ils n'ont pas la volonté d'eux-mêmes. Si on ne va pas les chercher par la main, mais les parents ayant démissionné.
Oui, mais on peut essayer de faire quelque chose quand même.
Mais dites-moi quoi, on avait une de proximité, on faisait des activités. Moi-même, j'ai joué au foot avec des jeunes des cités. Mmh. On montait des équipes, police, gendarmerie et tout ça. On jouait contre eux, ça faisait du bien à tout le monde. On se parlait, on buvait un café après, on discutait. Ça atténuait les tensions. Maintenant, on nous l'a enlevé, tout ça, c'est fini.
Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Il faut démissionner. C'est quoi ? Quel est vous êtes policier de terrain. Quelles sont au fond les choses concrètes que vous imagineriez pour que ça aille mieux ?
Alors déjà, je ne vais pas rentrer dans la même physionomie que l'auditeur d'avant qui dit supprimer les allocations, supprimer l'argent. On ne sait pas d'où ils viennent tous ces jeunes là qui se sont battus hier. Aucune discrimination de ma part. Ce qu'il faut faire, c'est déjà remettre tout le monde au milieu d'une table, autour d'une table. Les parents, les éducateurs, nous-mêmes, les policiers. Moi, je suis parent également, je suis père de famille. Se remettre tous autour d'une table et discuter. Parce que là, on va droit dans le mur. Et ce phénomène de bande, là, il y en a deux dans l'Essonne. Mais je vous fais un pari macabre, monsieur Pro.
Il y a deux bandes dans l'Essonne ?
Non, cette histoire de bande hier, des deux décès des deux jeunes.
D'accord, vous vouliez dire qu'il y a deux décès dans l'Essonne.
Il y a deux décès dans l'Essonne, dû à certainement ces phénomènes de bande. Mais ça va faire boule de neige. Si là, on ne fait rien dans les 8, 10, 15 jours...
Et vous pensez que si on se met autour d'une table, comme vous dites, pour parler, ça va arranger les choses ?
Je ne dis pas que ça arrangera, mais au moins ça pourra crever l'abcès sur certaines choses. D'accord. Sur beaucoup, beaucoup de choses.
Bon.
Je pense qu'on peut crever.
Réunion, d'accord. Concertation, réunion, discussion. Voilà. Autrement, qu'est-ce que vous préconisez ? Et vous avez forcément un avis, vous êtes sur le terrain depuis des années.
Mais déjà, vous savez, on a commencé à ouvrir les portes un petit peu à tout le monde pour faire des stages au troisième, aux jeunes qui sont en troisième. Déjà, en prendre plus. Remettre un peu des policiers dans les collèges pour leur faire un peu de pédagogie, leur expliquer.
Là, il n'y a pas de policiers dans les collèges.
Il n'y en a quasiment plus.
Donc, c'est des policiers qui viendraient donner des cours.
Mais c'est ce qui a existé pendant 50 ans. Ça a été abandonné parce qu'on a demandé à ce que tout le monde reparte un peu plus sur le terrain sans faire de pédagogie.
En tout cas, à chaque fois, moi, que j'entends des professionnels, tous me disent la même chose, c'est que la police de proximité, le contact qui a existé avant et qui n'existe plus aujourd'hui est préjudiciable. Ça, tous les professionnels le disent. Donc je me dis, si tous les professionnels le disent, pourquoi on ne le fait pas ? Par manque de moyens ? Par manque d'argent ? C'est quoi ? Par manque de philosophie pénale ? Par une volonté, plus exactement, de politique pénale ?
Oui, par manque de philosophie politique.
On ne veut pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas discuter. On ne veut pas faire de la pédagogie.
Alors, on l'a fait. On avait un outil, la police de proximité, qui marchait plus ou moins bien suivant les endroits, mais qui marchait, qui fonctionnait. On l'a enlevé.
Mais ça fait combien de temps ? C'est Nicolas Sarkozy qui l'a enlevé. Ça fait un moment.
Oui, mais personne n'a jamais voulu la remettre.
Mais pourquoi ? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ? Moi, je ne suis pas un professionnel de ça. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'on a demandé.
Parce qu'on fait du chiffre.
On veut du chiffre et on veut du monde sur le terrain.
D'accord.
Mais là, on va retrouver...
Bah là, il y aura du monde sur le terrain. Police proximité, j'en serai sur le terrain.
Qu'est-ce que ça va amener ? Rien. Moi, je vous le dis, c'est un placebo. On va rien ramener, si, des heures supplémentaires à mes collègues, qui en peuvent plus depuis un an, entre le Covid, entre les gilets jaunes depuis 2 ans. Mais c'est tout. Ça n'amènera rien d'autre.
Bon, ben merci Cédric, en tout cas.
J'ai une dernière réflexion. Il faut aussi que certains chanteurs arrêtent de chanter certains trucs, quoi. Bah, celle-là, il faut qu'elle arrête de chanter « L'école est finie » parce que les jeunes le prennent au mot, hein. Enfin, je ne sais même pas si la connaissent d'ailleurs.
C'était une boutade. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie...
Voilà. Que l'école est finie.
C'est son premier titre.
L'école est finie depuis
longtemps. Je crois que c'est 63, j'étais pas né. Moi. Je pense que quand elle a commencé ce premier titre, je crois que c'est 63, l'école est finie.
Tout à
vérifier, et Boris Pirédou, lui, n'était. Alors, non seulement il n'était pas né, mais je ne sais même pas si le père de Boris Pirédou était né.
Je vous dis.
À 13h29, la pub. Et à tout de suite, on va encore continuer parce que ça vous fait beaucoup réagir, les Rix. Mais il y a d'autres sujets. Hein. Je voudrais qu'on parle des agriculteurs parce que c'est. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas le salon de l'agriculture, mais on peut évoquer des agriculteurs. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Monsieur Tessier, vous n'avez pas gagné à l'euro-million hier ?
Non, malheureusement.
Personne
vous avez dit que j'avais déjà gagné 200 millions d'euros lors du
Personne n'a gagné, j'attendais un virement ce matin. Personne n'a gagné. Donc on en reparlera vendredi et la somme n'augmente plus.
Oui,
210 millions. On est bloqué à 210 millions.
C'est déjà pas mal. Hein.
Certes.
Je prends, hein. Pas vous ?
Pourquoi pas, mais en tout cas, on en reparlera vendredi.
On en reparle vendredi. Nous attendons en tout cas dès maintenant sur d'autres sujets. Y aura-t-il, comme dans le littoral des Alpes-Maritimes, un confinement local à Dunkerque ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est attendu sur place cet après-midi. Des mesures supplémentaires de freinage de l'épidémie sont souhaitées par le gouvernement. Qu'en est-il au niveau national ? Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, vient de s'exprimer.
Depuis quelques jours, le nombre de contaminations et le taux d'incidence repartent à la hausse. La situation se dégrade et elle est même préoccupante, très préoccupante, dans une dizaine de départements. Et dans certains territoires, impose même des décisions et des mesures rapides et fortes.
Des mesures rapides et fortes. Qu'attendez-vous du gouvernement? 32-10. L'acteur Gérard Depardieu a été mis en examen le 16 décembre pour viol et agression sexuelle, des actes qui auraient été commis à l'été 2018 sur une jeune comédienne. Gérard Depardieu conteste. La justice n'a pas à être rendue sur la place publique, a déclaré son avocat. Qu'en pensez-vous? La justice se rend-elle désormais sur les réseaux sociaux? Ces informations doivent-elles être rendues publiques? Encore un procès médiatique, écrivent sur la page Facebook de l'émission. Partagez-vous cet avis. 32-10. Et puis, un programme. Allez, hop. À tous nos agriculteurs, merci de nous nourrir. C'est le message posté par Emmanuel Macron hier sur Twitter. Le salon de l'agriculture est annulé. Le chef de l'État s'était rendu ce mardi dans une ferme de Côte d'Or.
Je trouvais que c'était important d'abord de continuer à montrer notre soutien complet et entier à l'égard du monde agricole.
Les agriculteurs sont-ils suffisamment soutenus? Consommez-vous local? Avez-vous changé vos méthodes de consommation? Le métier fait-il encore rêver? Eh bien, pour Yves, sur la page Facebook de l'émission, nos agriculteurs sont les grands oubliés de notre pays. La France détruit son agriculture, s'énerve Pierre. Travailler 7 jours sur 7 pour finir avec une petite retraite ne me fait pas rêver, rajoute Vincent. Et courage à tous les professionnels, lance Cédric. Et oui, merci à eux pour tout ce qu'ils font.
Et ça va nous manquer parce que c'est en ce moment le salon de l'agriculture. Et c'est vrai
qu'il aurait dû démarrer ce week-end.
Voilà, RTL est toujours très présent. Chaque année, on était allé l'an passé et puis les autres années faire des émissions en direct avec les auditeurs. Et c'est vrai qu'on veut parler des agriculteurs précisément pour cette raison aujourd'hui dans l'émission. Nous poursuivons sur les RICS et sur ces deux adolescents qui sont décédés. Nous sommes avec Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie, qui habite Nancy.
Bonjour Pascal.
Et qui va nous livrer son analyse.
Avant tout, je présente toutes mes condoléances aux familles touchées, parce que je suis moi-même papa, et c'est la pire chose qui puisse arriver. Par contre, je suis choqué de la manière dont on parle des jeunes. Moi, je pense que les jeunes, avant tout, il n'y a rien de plus beau. On a une très, très belle jeunesse en France. On a une très belle jeunesse. Moi, je côtoie beaucoup, beaucoup de particuliers de par mon métier, de toute classe sociale. Je peux vous assurer que j'ai des gamins qui me disent « bonjour, monsieur », qui me servent un verre d'eau, qui... très poli. Donc là, je suis assez choqué de l'image qu'on a de nos jeunes. La jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc déjà, là-dessus, je suis assez choqué. On stigmatise, en fait, une poignée de jeunes délinquants, parce que c'est le mot, et on généralise sur la jeunesse française.
Qu'on généralise? Qui généralise?
L'auditeur tout à l'heure, quand j'entendais parler, les jeunes aujourd'hui sont moins bien élevés qu'avant. J'entendais aujourd'hui, vous regardez un enfant...
Non, ils ont un rapport, convenez qu'ils ont un rapport à l'autorité, mais c'est toute la société différent de celui que vous aviez ou que nous avions, mais la société, elle a changé.
Alors, je ne suis pas d'accord, Pascal. Je ne suis pas d'accord dans le sens où j'ai régulièrement des cas où une personne s'est fait arrêter par les gendarmes. Bon, ben voilà, il y a eu un procès, il s'est fait avoir, il va respecter sous le... Mais en aucun cas, il a insulté le gendarme, aucun... Non, encore une fois, on stigmatise parce qu'on va toujours mettre en avant, devant les chaînes, devant ceci, cela, les problématiques. Dès qu'il y a un fait divers, aussitôt on le met. Et on le met en boucle, on le met en boucle, on le met en boucle. Et pour autant, ce n'est pas la généralité. On a aujourd'hui, moi je connais plein de gendarmes qui, quand ils font leur boulot, ça se passe bien. Il y a des gendarmes avec qui ça se passe bien. Je connais des policiers avec leur boulot, ça se passe bien. Par contre, on a des quartiers qui sont très compliqués. Mais rien n'a changé depuis 40 ans.
C'est ça qui est discutable. Ce qui a changé, par exemple, c'est la jeunesse. Je répète, Alain Bauer, je l'entends depuis hier, il intervient sur différents médias. Vous avez aujourd'hui des gosses qui se baladent avec un couteau ou des armes blanches à 13, 14, 15 ans. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Il n'y avait pas d'enfants de 13 ans qui tuaient avec une arme blanche un de leurs petits camarades.
Alors, ce qui a évolué, en fait, effectivement, on a 3 ans. On va dire de 17 ans, on est passé à 13, 14 ans. Voilà.
C'est pareil.
Là, ce qui a évolué.
Et c'est ça qui fait peur. Plus également, deuxième chose, l'arrivée des filles. C'est-à-dire ce qu'il dit également Alain Bauer, ce qui a changé, c'est qu'il y a la présence maintenant des jeunes filles qui n'existaient pas avant. Donc ça aussi, c'est un changement.
On est bien d'accord. Mais encore une fois, c'est pas un changement sur l'ensemble du territoire. C'est un changement sur des endroits, des zones.
Oui, vous avez raison. Mais ça a toujours été le cas, vous avez raison. C'est faut pas généraliser. Il y a des, c'est toujours des micros. Alors les micros, ils se multiplient parfois, mais c'est vrai que vous avez raison. Il y a des zones sensibles en France depuis 30 ans ou 40 ans, et le reste vit paisiblement. Oui, bien sûr.
Et mine de rien, mais le reste, il faut aussi. Alors, je dis, quand je dis, il faut en parler, simplement aussi pour redonner aussi confiance à nos gamins qui nous écoutent, qui tous les jours entendent en boucle, ils sont mal élevés, ils sont pas bien, ils font pas bien ça, ils sont. Non, il faut aussi quand même, à un moment donné, réencourager cette jeunesse. Je réaffirme, on a une belle jeunesse. Mmh. Maintenant, on a nos lieux de non-droit. Ces lieux de non-droit, tous nos présidents nous l'ont fait. Tous. Ils nous ont tous parlé.
Oui, mais pas que de non-droit. Il y a des villes qui ont basculé. On a souvent cité cette ville comme Nantes, qui était une ville incroyablement paisible.
Oui.
Et qui est devenue ces dernières années. Les gens sont effrayés de ce qui se passe à Nantes. Avec des rixes, avec des bandes rivales, avec des villes, des rues qui sont devenues un coupe-gorge. Et c'est vrai que la municipalité nantaise est souvent montrée du doigt là-dessus.
Oui. Alors, pourquoi ? Quand on regarde sur le fond, pourquoi ? Aujourd'hui, on parle, ça fait 10-15 ans en France, on parle beaucoup du terrorisme. Bon, on va au Mali, on fait intervenir des gens, des militaires spécialisés. D'accord ? Aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui va mettre 60-80 policiers, et moi je les plains, ces policiers. Mmh. Aujourd'hui, quand on arrive dans des endroits comme certaines banlieues très compliquées, et pas toutes, hein, encore une fois, pas toutes, ne généralisez pas. Mais sur certaines banlieues compliquées, on se rend compte quoi ? Il faut mettre qui ? Il faut mettre des gendarmes et des policiers spécialisés pour ce genre de... Parce qu'eux, ils attendent, ce sont des gens qui touchent entre 5 et 10 000 euros par jour avec la drogue. Mmh. Ils ont des armes. Demain, des policiers arrivent en camionnette, mais ils vont se faire taper comme des lapins.
Donc, mais merci Jean-Marie de ce témoignage là encore, effectivement, et de à fois témoignage et puis également votre avis que vous portez sur cette situation compliquée des bandes rivales, des rixes, de la société également. Une pause et à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je vois que Jean-Hervé, qui est agriculteur, que Marina, qui est agricultrice, sont déjà présents parmi nous. On va les interroger dans une seconde. Mais Laurent Tessier...
Vous avez pu l'entendre ce matin dans Laissez-vous tenter. Sheila prépare son retour.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et doua, didi, doua, dita.
La chanteuse publiera le 2 avril prochain, venu d'ailleurs, son 27e album. Steven Bellery a pu joindre Sheila. Il nous a fait découvrir une première chanson, tous yéyé.
Moi, je suis pas quelqu'un de nostalgique. Non, c'est plutôt un clin d'œil. Bah, à cette époque-là, déjà, on était jeunes. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'avec le recul, on a tellement été critiqués à l'époque, parce que le yéyé, c'était ringue. Les parents râlaient parce qu'il y avait des guitares trop fortes. Enfin, bon, voilà, toute une époque de souvenirs. Quelque part, ça a pris une autre odeur. Voilà, ça fait du bien. C'était la libération de la jeunesse. On n'avait peur de rien. À vrai dire, on pensait pas vraiment à l'avenir. On a ouvert plein de portes. On a construit quelque chose. Parce qu'il y avait rien. Nous, ça n'existait pas. Quand même, avant nous, il y avait Tino Rossi, Patachou, voilà quoi. Voilà, il y a eu un vent de folie, un vent de liberté.
Elle est un peu rouge parce qu'il y avait quand même Gilbert Bécaud avant les yéyés qui avait déjà changé un peu la chanson française.
Quel souvenir gardez-vous de cette époque yéyé des années 60 ? Eh bien, venez témoigner au 3210-3210.
Ça va être intéressant, on a la nostalgie de cette époque qu'on n'a pas connue, parce que c'est une sorte d'âge d'or, on imagine que tout allait bien. Bon, il y avait aussi, les gens partaient 36 mois en Algérie, hein, les jeunes garçons entre 55 et 60 et 1960. Jean-Hervé, peut-être pour l'agriculture, le chapitre agriculture. Bonjour, bonjour. Vous êtes agriculteur, vous avez 62 ans.
C'est ça.
Bon, comment ça va ?
Pas bien.
Pourquoi ?
Depuis longtemps. Bon, parce que, comment je veux dire, oui, soutenu, non, pas du tout. On sait que quand on commence une journée, on sait qu'on a perdu de l'argent le soir.
Bon,
vous êtes... une profession qui va accepter ça.
Vous êtes dans quel secteur ?
Céréales. Que des céréales.
Bon, est-ce que vous avez le sentiment... Vous êtes agriculteur de père en fils, sans doute ?
Tout à fait.
Bon, est-ce que vous avez le sentiment de moins bien vivre que votre père ?
Ah bah, bien sûr. Bah, le blé que mon père, qu'on lui payait, on me le paye le même prix à moi aujourd'hui. Ça fait 40 ans que je suis installé. Ouais, c'est normal.
En valeur, c'est le même prix.
La différence qu'il y avait à l'époque, c'est qu'on respectait les gens et les agriculteurs. Vous voyez, là, je disais à votre collègue, je suis dans un champ en train de apporter des oligo-éléments sur mes blés, du chouvre, du cuivre, du manganèse, enfin bref. Il n'y a rien de polluant. Je me suis fait insulter. Je suis derrière une maison, il y a un gars qui était derrière son grillage, bras d'honneur, je n'en passais des meilleurs. Je me suis arrêté. On s'arrête, on essaye de discuter. J'ai même pas eu le temps d'en placer une. Pollueur, connard. Voilà. Non, tu sais ce que je fais? Tu sais ce que je fais? Mais j'en ai rien à foutre de ce que tu fais. J'en ai rien à foutre. Voilà. Alors moi, je suis dans un milieu proche d'une métropole, à 14 km de métropole, des maisons construites partout. Je ne lâcherai pas le morceau. Voilà. Avant de discuter, on est insulté.
Mais voilà. Je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça le message d'Emmanuel Macron est intéressant. Mais oui, parce que vous avez un lobby écolo depuis des années qui tape sur les agriculteurs en vous expliquant que vous êtes.
Disons-le. Le maire de Lyon qui va mettre des steaks de soja dans les cantines. Quand on sait que le soja vient des États-Unis, qu'il est pourri de Roundup, parce qu'on le sait, tout le monde le sait, qu'est-ce qu'on attend pour arrêter l'importation de viande américaine, de poulet canadien et de soja? Là, l'agriculture française, elle ira peut-être un peu mieux. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, si le gouvernement fait quelque chose de bien, ils sont en train de monter un plan protéines. Ok, d'accord, mais qu'on ferme les protéines qui viennent de l'étranger, qui sont pourries.
Non, tout mais le mal-être des agriculteurs, on l'entend sans arrêt, et c'est vrai qu'on a envie de vous défendre, parce que c'est aussi un art de vivre, hein. Là, je pense à la viande, bien sûr, c'est un art de vivre.
Je prends quand il y a eu le confinement, le premier confinement, moi, à côté de chez moi, j'ai un céréalier bio, chacun fait ce qu'il veut, le soleil brille pour tout le monde. Le bio, le maraîcher bio, il avait la queue de voiture devant chez lui pendant le confinement, chapeau. Le vendredi où le confinement s'est arrêté, plus une bagnole. Ils sont partis où les gens? Ils sont partis dans les grandes surfaces. Moi, j'ai regardé l'émission hier soir sur la 2. Il y a un agriculteur qui a dit un mot extraordinaire. Il a dit, on questionne les gens quand ils rentrent dans la grande surface, on regarde les caddies à la surface, il n'y a rien qui correspond. Mais pourquoi? Parce que c'est une question d'argent. C'est une question d'argent. Il ne faut pas que le panier de la ménagère augmente. Mais les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter parce que les salaires à côté, ils n'augmentent pas et tout a augmenté.
Et le bio, c'est plus cher.
Oui, peut-être, mais celui qui achète du bio, il a peut-être les moyens d'acheter du bio. Je ne suis pas contre le bio. Mais aujourd'hui, On tire en bas. Le qui prend? Le premier, le paysan. Je disais à votre collègue ce matin, les gens ils voient sur Internet, le blé à 200 euros la tonne aujourd'hui. Vous avez une grande partie des agriculteurs, ils ont plus de stock. Parce que à la moisson, au mois d'août, il y a besoin d'argent. Mais 200 euros, c'est sur Internet. On va enlever 20 euros parce que la coopérative ou le négociant, il va prendre 20 euros pour faire tourner sa boutique. Et puis on va enlever 4-5 euros parce qu'il n'y a pas de protéines, parce qu'il est machin, parce qu'il est sale. Et en fait, il est payé combien? Peut-être que 150 euros. Et les 50 euros qui sont pris sur qui? Sur le dos des paysans. La coopérative s'est servie entre-temps, le négociant s'est servi entre-temps, mais lui aujourd'hui, il va revendre son blé combien? Alors il nous l'a payé 150, allez, je veux dire, au mois d'août-septembre, mais aujourd'hui le négociant, il l'a stocké, il va le vendre 220. Il se fait 70 euros à la tonne sur notre dos.
Jean-Hervé, vous avez des enfants?
Mais ça, c'est pas normal, ça.
Vous avez des enfants?
Oui, j'ai des enfants, ouais.
Et les enfants, ils vont reprendre l'affaire?
Mon fils est intéressé, je ne suis pas d'accord. S'il veut prendre, il va prendre. Hein. Peut-être qu'il a raison, peut-être que ça va évoluer.
C'est-à-dire que vous le dissuadez parce que vous pensez qu'il n'y a plus d'avenir? Vous dites je ne suis pas d'accord.
Parce que c'est très compliqué dans le milieu où je suis. C'est-à-dire que je suis en culture pratiquement urbaine. Donc c'est très compliqué. Donc on a les contraintes. On a les contraintes européennes, on a les contraintes françaises. Et en plus, nous, on a tout un tas de maisons neuves où les gens, on n'a plus le droit de travailler à 3 mètres ou 5 mètres des maisons. Hein, on n'a plus le droit, c'est fini. Mais en attendant, il faut qu'on paye le loyer de ces terres-là. Et puis, il faut qu'on les entretienne. Donc, c'est un coût. Donc, mon gamin, il va subir ça toute sa vie. Non, bah, attendez. C'est effarant, moi. Je ne sais pas, je ne comprends plus.
Le mal-être, en tout cas, votre mal-être, on l'entend. En termes de revenus aujourd'hui, c'est indiscret de vous demander si vos revenus sont stables, s'ils baissent, s'ils sont à la hausse depuis quelques années?
Ça fait 7 ans qu'ils sont dans le négatif.
C'est-à-dire dans le négatif?
J'ai pas de salaire. Heureusement que ma femme travaille à l'extérieur.
Mais ça veut dire quoi, vous n'avez pas de salaire? Ça veut dire que vous perdez de l'argent chaque année?
Mais bien sûr, je ne sors pas de salaire, je ne peux pas sortir de salaire.
Oui, mais sortir de salaire, mais on peut être rémunéré ou il peut avoir un revenu sans salaire. Il y a peut-être une manière différente d'obtenir des revenus. La fin de chaque année, entre ce que vous avez investi et ce que vous êtes combien, par exemple, sur votre...
Tout seul, l'exploitation, heureusement.
Vous êtes tout seul, d'accord. Donc, à l'arrivée, vous perdez de l'argent dans l'exploitation?
Mais bien sûr. On arrive à faire une certaine moyenne, mais quand vous avez des investissements, parce qu'il faut toujours... On est obligé de renouveler le matériel, parce que du matériel qui a 5, 6, 7, 8 ans, qui n'est plus, entre parenthèses, aux normes, parce qu'on vous impose des normes de tonnes à traiter, de machins, de tracteurs, vous en pensez des meilleurs, de non-pollution. Vous n'avez pas le choix, vous y passez. Donc, vous investissez sur votre exploitation pour avancer aussi. Bon. Non, vous voyez, prenez l'exemple, le gasoil, il a pris combien là en 15 jours?
Oui, d'ailleurs, personne n'en parle de trop et je suis d'accord avec vous, l'essence.
Mais
oui,
il a pris combien?
Bah, je ne sais pas précisément, mais il a augmenté fortement.
Ben voilà, ben on en a besoin. Donc,
vous allez faire, mettons,
au mois de décembre, vous avez fait un chèque de 1 000 euros. Aujourd'hui, vous allez faire un chèque de 1 800 euros.
Mais je l'ai vu dans Paris. Vous savez combien on paye le litre d'essence? J'étais effaré. Ouais. J'ai payé un litre d'essence 2,02 € il y a 4 jours quand je fais le plein. Dans Paris, je le paye 1,30 € sur l'autoroute ou 1,40 €. Dans Paris, on paye ça 2,02 €. J'ai l'impression que vous m'êtes fait avoir par ma station-service. Bon, merci, on entend votre mal-être. Et puis, je vais vous dire, au-delà de ça, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que Emmanuel Macron a mis ce tweet à tous nos agriculteurs, merci de nous nourrir. C'est vrai qu'il y a un bashing agriculture qui, à titre personnel, je trouve insupportable en permanence. C'est vrai que faut vous soutenir, c'est vrai que c'est l'art français, c'est vrai qu'il y a, évidemment... faut faire ça dans les règles du jour, mais il faut aussi parfois défendre un certain art de vie. Je pense à la viande notamment, qui est très accusée aujourd'hui par certains et parfois des minorités, et qui sont très présentes notamment dans les médias, disons-le. Merci beaucoup Jean-Hervé.
Ils vont acheter de la viande pas chère qui vient d'étranger.
Mais écoutez, parfois ils demandent de ne plus en manger du tout. Donc c'est encore, ça serait dommage de se priver du goût de la viande rouge. Merci en tout cas Jean-Hervé, on va être avec Marina et Nicolas tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Sheila qui a annoncé son 27e album, vous pourrez réagir. Ça c'est encore la période, première période de Sheila. Bang Bang, ça doit être à la fin des années 60 j'imagine. Après il y aura la période disco également. Alors Marina, c'est vrai qu'on sent, on était avec Jean-Hervé tout de suite. Bonjour Marina, vous êtes agricultrice.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. On sentait dans la voix de Jean-Hervé ce mal-être qui existe et puis en même temps cette authenticité et puis cet amour du métier. Malgré tout, c'est quand même des gens, il ne prend pas un centime, il perd de l'argent et il continue à faire les céréales et son fils veut faire la même chose. Donc il y a quelque chose dans ce métier, disons-le, qui n'est pas un métier comme les autres.
Non, effectivement, c'est pas un métier, c'est une passion. Et celui qui n'a pas la passion, eh ben, il faut même plus penser à faire paysan. Hein.
Je suis d'accord avec vous. Alors pourquoi d'ailleurs? C'est parce qu'il y a une forme de liberté peut-être, un rapport à la terre, quelque chose de charnel qui vous fait tenir?
Oui, il y a le rapport. Alors moi, éleveuse, je suis avec les animaux, donc c'est le rapport, le contact avec les animaux. Ensuite, c'est la transmission de génération en génération. C'est un art de vivre aussi parce qu'on vit au rythme des saisons. On est loin de la société du paraître, nous, vous voyez. On est vraiment dans le concret complet. Et c'est un art de vivre parce qu'on vit avec les animaux, avec les saisons, le temps. Et d'ailleurs, c'est la plus grande difficulté de ce métier, c'est de faire reconnaître cela, quoi.
Et c'est ça le très grand paradoxe, parce que vous êtes les premiers écologistes, et parfois il y a des gens qui n'ont jamais quitté le 6e arrondissement de Paris, non, et qui viennent nous casser les oreilles avec des dogmes écolos, alors qu'ils ne savent même pas reconnaître un lapin d'un lièvre.
Tout à fait, des fois il y a quelques vacanciers qui passent et qui me parlent, moi, et ils ne connaissent rien, mais absolument rien de notre métier, ils croient savoir des choses, et puis on leur explique, là ils sont contents d'apprendre, mais comme je dis, moi je ne connais rien à la ville, je laisse les gens de la ville gérer la ville, les gens de la campagne, gère la campagne.
Alors Marina, vous faites quoi? Vous êtes dans le Puy-de-Dôme d'abord.
Voilà, je suis dans le Puy-de-Dôme, je suis en bio. Mmh. Ça fait 26 ans que je suis installée. J'ai des bovins allaitants.
Allaitants,
c'est-à-dire pour la viande.
D'accord.
J'ai des chèvres laitières, je fais de la transformation fromagère. Mmh. J'ai des cochons en bio. Mmh. Et ensuite, j'ai des plantes médicinales.
Bon, vous êtes fille d'agriculteur,
oui.
Et vous avez repris peut-être la ferme?
Je me suis installée d'abord en parallèle parce que je me suis installée, donc mon père était encore jeune, mes parents étaient, voilà. Et là, il vient de prendre sa retraite à 73 ans. Et là, j'ai repris également sa ferme.
Je pose la même question que je posais à Jean-Hervé. Est-ce que vous avez l'impression de vivre mieux ou moins bien que votre père ?
Ah, mais beaucoup moins bien. Mais même mon père, à la fin, pourquoi il a continué jusqu'à 73 ans pour une retraite de misère ?
Non, c'est-à-dire, mais surtout pas. Vous connaissez le montant de sa retraite, par exemple ?
Elle n'est même pas 700 euros. Après avoir travaillé toute une vie, il est usé, ma mère est usée, les gens de la terre sont des gens usés. Mais ça, on n'en parle pas.
Si on sait que c'est un métier difficile, Marina, on sait bien que c'est un métier rude, difficile et en même temps magnifique. Et
oui,
c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de jeunes parfois se sont éloignés de ces métiers-là. Vous vous êtes resté à un moment où dans votre génération, peut-être que vos amis qui étaient fils ou filles de paysans ont changé de métier.
Oui, beaucoup.
Bah oui, parce qu'ils
trouvent... Il y en a très, très peu d'ailleurs qui ont... Ouais.
Mais pourquoi ? Parce que c'est souvent plus dur et on gagne moins. Donc
exactement,
c'est ce que vous avez dit
ça.
Au début de la conversation, il faut être passionné.
Ah tout à fait, parce que si on était payé à l'heure, on serait très très riche. Mais c'est pas le cas, mais après on regarde pas nos heures non plus comme ça.
Mais vous ne regrettez rien.
Ah mais ça serait refaire, je ferais exactement pareil, même si moi j'arrive juste à payer la MSA, payer les assurances, payer les choses comme ça. Je peux pas me projeter sur...
Mais vous prenez un salaire quand même.
Non.
Non plus.
Non.
Donc, mais vous avez des revenus.
Eh bien, le peu que j'ai me paye les courses que je fais, mais je n'ai pas un caddie non plus. Moi, j'ai mon jardin, j'ai tout, donc après, voilà, mais je me paye... j'ai une vie simple, très très simple.
Bon, vous allez continuer, nous allons continuer à parler ensemble, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est votre vie, précisément, Marina. Est-ce que vous partez
alors,
en vacances ?
Oui.
Est-ce
alors,
que
non.
vous avez des loisirs ? Et c'est ça qui est intéressant. Donc, alors, je vais vous poser les questions tout de suite après le flash, parce que Hortense Crépin est arrivée.
Très bien.
Et c'est intéressant d'avoir votre témoignage. À tout de suite.
Bien, merci.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. RTL.
Il est quasiment 14h. On continuera évidemment avec Marina et c'est passionnant ce que nous dit Marina. Elle est agricultrice et elle nous raconte sa vie. Mais Hortense Crépin pour le rappel des titres.
Tous nos efforts doivent se poursuivre pour éviter un reconfinement. Déclaration ce midi de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il indique que la situation est très préoccupante dans une dizaine de départements. 1,3 million de personnes ont déjà reçu 2 doses de vaccin en France. Cet après-midi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se rend à Dunkerque où de nouvelles mesures pour freiner la propagation du coronavirus doivent être annoncées. Dans l'Essonne, les 2 morts d'adolescents de 14 ans à la suite de rixes ne seraient pas liés. L'auteur des coups ayant entraîné la mort d'un jeune à Bussy-Saint-Georges hier se serait rendu à la police. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place hier. Il a annoncé l'envoi de renforts des forces de l'ordre dans le département. À Marseille, 14 supporters de l'OM jugés en ce moment devant le tribunal correctionnel pour les incidents à la commanderie du 30 janvier. Ils risquent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. 4 sont en détention provisoire. La CNIL lance des contrôles après la fuite des données médicales de près de 500 000 Français. Objectif, établir les manquements responsables de la fuite de ces informations. En football, suite des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions à 21h ce soir, Atalanta Bergame, Real de Madrid et Mönchengladbach, Manchester City. Et puis sur la mer, Isabelle Yosque a franchi de manière symbolique la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce midi sous les applaudissements du public et notamment du quatrième de la course, Jean Le Cam. La navigatrice boucle son premier tour du monde hors course après avoir dû abandonner en janvier à cause d'une avarie. La météo avec un temps printanier sur la grande majorité du pays. Quelques nuages au nord de la Loire et près de la Manche ou autour du golfe du Lion. Les températures cet après-midi, 17 degrés à Lille et Strasbourg, 19 à Paris et Bordeaux et 21 à Vichy. Les courses, c'était à Cagnes-sur-Mer. L'arrivée provisoire, 12, As, 13, 10 et 11. 14h et presque 2 minutes sur RTL et la suite des auditeurs ont la parole.
Et je remercie Hortense Crépin. On est avec Marina, agricultrice.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Marina, on poursuit la discussion.
Oui.
Je comprends mal le concept de pas de salaire, pas de revenu. C'est-à-dire que lorsque vous avez dépensé ce que vous devez dépenser pour les bêtes, pour l'entretien de la ferme, pour que sais-je. Bon, une fois que vous avez vendu ensuite les bêtes, puisque c'est votre activité, il ne reste rien dans cet équilibre-là entre les dépenses et les recettes, on est à zéro.
Eh bien, c'est-à-dire que vous avez pas le peu qui vous reste. Si vous reste à peine, hein, je vais vous dire, allez, on va dire, vous vendez pour 5 000 euros de bêtes. Et vous devez l'aliment, vous devez les charges, vous devez la MSA. Mais s'il arrive un pépin, vous n'allez pas dépenser à tout va. Vous avez intérêt à faire très très attention. Donc
mais le chiffre d'affaires, par exemple, annuel, vous pouvez nous le dire, le chiffre d'affaires de votre activité ?
Alors moi, je vends à peu près pour 48 000 euros en tout, entre les veaux, les fromages
d'accord,
et les plantes.
Ça, c'est les recettes. Voilà. Bon, bah, vous avez 48 000 euros de dépenses en gros.
Voilà.
Effectivement. C'est compliqué. Mais alors, votre vie, pardonnez-moi de poser ces questions indiscrètes, mais vous êtes en couple, vous avez des enfants ?
Non, alors je suis divorcée et il me reste une fille à charge qui a 16 ans et la plus grande a 25 ans.
Voilà. Mais votre fille de 16 ans, par exemple, il va falloir qu'elle aille peut-être en cours à l'université ou lorsqu'elle va...
Tout est pour elle. Voilà.
C'est-à-dire que mais comment vous ferez si elle veut faire ses études ? Parce que par définition, elle ne peut pas faire ses études dans le Puy-de-Dôme si elle veut poursuivre une carrière ou un parcours universitaire.
Ah si, on a tout ce qu'il faut à Clermont-Ferrand, hein, c'est à une heure de chez moi. Non, il n'y a pas
oui,
de...
Oui, mais là, donc si elle est, c'est à une heure de chez vous, j'entends bien, mais elle est obligée de dormir par exemple à Clermont-Ferrand, elle ne va pas rentrer tous les soirs.
Ah ben je pense, pour l'instant on n'en est pas là à 16 ans, mais théoriquement après il y aura des solutions de peut-être comme tous les jeunes, demander des bourses. Après il ne faut pas freiner, il ne faut pas que ce soit un handicap pour elle plus tard.
Bien sûr,
voilà.
Mais la jeune femme de 25 ans que vous avez, elle n'a pas poursuivi l'aventure agriculture ?
Alors elle est aide-soignante. Mais maintenant, elle aimerait beaucoup venir s'installer avec moi en GAEC, ce qu'on appelle en GAEC. Mais moi, je ne peux pas parce que c'est déjà trop compliqué. Il faut passer devant chez un notaire, ça coûte très cher. Ensuite, il faut pouvoir sortir des salaires. Et pour pouvoir sortir un salaire, il faut quand même pouvoir développer derrière. Parce que moi, là où je suis, géographiquement, il faut aller chercher les clients. Je suis en montagne, quoi. Donc pour aller en vente directe, il faut trouver les clients. Donc c'est pas si facile que si on était en proximité de ville.
Alors, une fois qu'on a dit tout ça, quel est au fond alors le plaisir pour vous, si la situation notamment financière est compliquée ?
Alors non, mais après, je vous dis, c'est un art de vivre. Hein. Moi, je suis contente. Ma grand-mère, elle a travaillé très dur pour garder aujourd'hui ce que j'ai. Elle s'est retrouvée veuve à 41 ans à l'époque et voilà, c'était très difficile.
Donc
et
vous n'imaginez pas faire autre chose ?
Ah non, jamais de la vie, jamais.
Bon.
Ah non, jamais. Puis c'est une passion, mais voilà. Puis mes animaux, ils me le rendent, quoi. Vous allez, même la nuit, s'il faut se lever pour aller faire un vélage, faire naître un veau, il n'y a aucun souci. C'est vraiment, ou on le fait ou on ne le fait pas. Après, on a des animaux, c'est une responsabilité. Mais après, c'est vrai que la société actuelle, elle change énormément. Hier, je faisais, quand j'écoutais la radio, c'est affreux ce qu'on écoute. C'est vrai qu'on parle encore en franc. Quand on fait
mais
une
oui, paraît-il que les négociations se font en francs.
Voilà, alors ça, il y a des gens. Voilà, comment vous dire l'année dernière, un jeune veau de 9 à 12 mois en charolais se vendait autour de 17 francs le kilo. Voilà. Cette année, je l'ai vendu à 15 francs 80. Je veux dire, si vous le faites en euros, vous n'y trouverez jamais. Vous
mais 15
pas,
francs, alors, donc c'est-à-dire que c'est 2 euros le kilo de charolais
Non, ou un peu plus.
Bah oui, ou mettons si c'est...
Voilà,
mais 2 euros, donc vous le vendez 2 euros, mais moi je ne l'achète pas 2 euros.
Mais voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire.
Moi je vais l'acheter, vais l'acheter près de 40 euros le kilo dans une boucherie à Paris.
On est bien d'accord, ce sont les intermédiaires qui, et ben il faut bien qu'ils payent leur charge et tout, mais enfin, ils gagnent quand même grave leur argent, quoi. Parce que...
Alors ça, c'est dans une boucherie peut-être un peu chic. Autrement, dans grande surface, je vais le payer combien le kilo de charolais ?
Je sais pas, moi j'en achète pas en grande surface. Ça, je pourrais pas vous dire, mais je pense qu'autour de 20 euros.
Oui, mais dans une boucherie à Paris, alors c'est vrai que c'est à Paris, hein, bien évidemment, c'est toujours plus cher la vie à Paris. Vous savez, les gens qui viennent à Paris sont toujours effrayés des prix dans les petits commerces, entre guillemets, dans les rues de petits commerçants, parce que c'est deux fois plus cher qu'ailleurs, mais bon, c'est Paris.
Oui, mais alors, pour cette différence entre 15,80 et 18 ou 17,80, vous voyez, on joue sur des centimes, et après on y convertit, forcément. Mais c'est une manière de mieux ressentir la réalité de la chose. Et ensuite, moi à l'époque, en 1980, Mon père vendait des broutards, ce qu'on appelle, voilà. Il les vendait 21 francs. Et il n'avait pas les mêmes charges qu'aujourd'hui. Le gasoil ne coûtait pas si cher. Enfin, je veux dire, en face, on a des... En plus, ils nous inventent des choses à payer, comme la cotisation volontaire obligatoire.
Ben merci Marina. Je vais vous dire, on dit souvent que le monde change et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des jeunes qui parlent plus comme ils parlaient avant, il y a des journalistes qui parlent plus comme ils parlaient avant, il y a des intellectuels, des politiques, etc. Mais je trouve qu'il y a une continuité, une authenticité, une sincérité dans ce que vous venez de dire dans votre témoignage, qu'il n'y a pas dans le reste de la société, comme si vous préserviez une sorte d'ADN français qui passe de génération en génération. Est-ce que vous avez dit là, la manière dont même vous vous êtes exprimé, peut-être que votre père ou votre mère aurait pu s'exprimer de la même manière
Oui, je pense. Puis c'est simple, je veux dire. C'est pas qu'on, c'est avec authenticité qu'on s'exprime.
C'est vrai. C'est
je
vrai.
Vois chaque année, les normes ou les formations changent. C'est-à-dire que quand on a investi dans quelque chose, 2-3 ans après, ça ne correspond plus. Tout change. Et il faut qu'on s'adapte. Et pour s'adapter, il faut des sous.
Ben merci voilà. En tout cas, vraiment.
Alors
merci.
Je voulais juste dire deux choses de plus.
Ouais.
Quand on achète du lait ou de la farine, il faut savoir que le lait et la farine, si vous regardez bien sur l'étiquette, elle ne vient presque pas de France. Le lait, c'est Union européenne. Quand vous achetez du beurre, en général, c'est même pas de France. Donc où passent nos produits ? C'est la grande question est là. La loi Egalim, elle n'existe pas sur le terrain. Il faut arrêter Macron et tout ça, il faut qu'ils arrêtent.
Ça, c'est un petit peu plus technique peut-être pour moi, mais j'espère que l'essentiel a été compris par les auditeurs. Merci en tout cas Marina.
Eh bien, je vous remercie.
Manon, vraiment, et appelez-nous. Vous nous écoutez ? Vous avez le temps de nous écouter ?
Tous les jours, c'est vrai ? Oui,
et vous
mes
êtes où quand vous...
Le soir,
et vous nous écoutez où quand...
Alors, moi, je vous écoute à la radio dans mes étables.
Oh, c'est extraordinaire, ça. Et qu'est-ce que vous faites dans l'étable à 1h ? Parce que c'est pas l'heure de la traite.
Non. Eh bien, là, je nettoie, je repaille pour quand je vais rentrer mes chèvres ce soir. Et je prépare les box pour les petits chevreaux.
Je voudrais vraiment que vous invitiez les écolos à traire une vache un jour.
Alors, vous venez quand vous voulez.
Ben, je viens, Marina, je viens avec plaisir. Parce que vous savez traire... Est-ce que, Boris, vous savez traire une vache ? Moi, j'étais élevé à la campagne quand j'étais enfant. J'allais à la campagne l'été. Est-ce que vous savez traire une vache, monsieur Boris ? Hein ?
Jamais, non.
Jamais, ben voilà, vous savez pas ça. Laurent, il sait traire une vache, Laurent ? Hein, parce qu'on allait, quand on était enfant, on allait dans le monde rural, parce que nos grands-parents, en fait, on vient tous de la ruralité.
Maintenant, il manque certainement une génération... Enfin, comme il n'y a plus de parents dans la famille ou d'oncles,
bien sûr, exactement.
Et puis une dernière chose, on n'a pas de vacances.
Ah oui, ben ça, pas de vacances.
Le service remplacement, il coûte quand même 120 euros par jour.
Bien sûr. Donc, vous avez, la dernière fois que vous avez pris des vacances, c'était quand, Marina ?
J'ai pris une journée, je pense.
Non, mais c'est fascinant. Vous n'êtes jamais allé, par exemple, bronzer au soleil, à la plage, tranquillement ? Ça n'existe pas. C'est un monde qui n'existe pas. Pour vous prendre un avion pour aller visiter une ville, ça n'existe pas.
Non, je suis d'ailleurs, je pense, la première écolo, parce que je ne prends jamais l'avion. Donc, voilà, les écolos qui prennent l'avion, déjà, pour moi, ce ne sont pas des écolos. Ils veulent nous imposer des choses sur notre terrain, alors que c'est avec nos impôts, c'est notre terrain, c'est nos prêts, c'est nos... Donc, ils veulent nous
imposer répondez
des
à ma question, Marina. La dernière fois que vous êtes allé dans une ville pour visiter ou pour vous faire plaisir, c'était quand ?
Non, j'y vais jamais, moi. Ça ne m'intéresse pas.
Non, mais c'est fascinant. Vous savez que c'est des vies... Vous avez des vies qui n'existent plus parce que vous vivez comme le 19e siècle
même. Ah non, mais pas du tout. Alors là, pas du tout. Parce que, alors à côté de ça, il y a des choses. Moi, j'adore la lecture et tout ça.
Oui.
Si je veux regarder, je peux y aller par Internet, visiter par exemple le Louvre et tout ça. Voilà, ça m'intéresse.
Oui, mais convenez que plus personne ne vit comme vous. Et c'est beau d'ailleurs. Alors, 14 euros, je vous embrasse Marina. On a adoré vous avoir au téléphone, vraiment. Et dites bonjour à vos parents, saluez vos parents, parce que vraiment, c'est important que vous viviez et que vous restiez ce que vous êtes. Merci, à tout de suite. À tout.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Sheila avec son bâton, elle avait un petit bâton. Vous vous souvenez de ça ? Spacer. And the Bee Devotion. On le dit souvent dans cette émission, il n'y a rien de mieux qu'un témoignage. Ceux qui ont écouté Marina, d'abord ils se sont projetés dans sa vie, ils ont regardé la leur et effectivement ils ont vu la différence qui pouvait exister. Et en même temps la passion de Marina, le plaisir qu'elle a à faire ce métier, et peut-être c'est cela qui rend heureux aussi. C'était intéressant de l'écouter. Nicolas qui est agriculteur et qui habite Dijon. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
C'était bien ce que disait Marina.
Ah ben, c'est ce qu'on
c'était
vit.
Instructif en tout cas. Le mot c'était
c'est
bien.
C'est ce que les agriculteurs vivent. Hein.
Ouais, oui. Vous faites quoi?
Producteur de lait puis de céréales. Les deux.
De père en fils?
Ouais, on va dire comme ça, ouais, comme les curés, ouais.
comme vous dites. Mais c'est vrai que c'est difficile, si on n'est pas né dedans, j'imagine, c'est peut-être compliqué. Entre les recettes et les dépenses, même question que pour Marina et Jean-Hervé, il reste quoi à la fin de l'année?
À cette année, on est dans le moins, nous. Il nous a manqué 20 000 euros pour finir.
Donc vous avez perdu de l'argent?
Ouais.
Mais vous vous êtes payé entre-temps?
Eh bien, malgré tout, voilà, c'est ça qu'on est malhonnête, puisqu'on était obligé de faire un court terme à la banque. Mais parce qu'on a, on s'est quand même tenu un salaire, et un salaire c'est 1200 euros. Hein.
Donc là, vous êtes combien dans la ferme?
Deux frères.
D'accord. Donc chacun, vous versez 1200 euros.
Eh oui.
En fait, vous êtes dans le même cas que Marina, parce que 1200 euros, ça fait 2004 en salaire, c'est 30 000 euros par an. Quoi.
Ben oui.
Donc vous êtes exactement dans le même cas puisque c'est les 30 000 que vous vous êtes donné qui manquent à la fin de l'année. Alors c'est 20,
un
mais
peu,
bon...
Voilà,
c'est...
on ne mérite pas. Mais le souci qu'on a, et puis Marina le disait, mais tout a augmenté. Tout ce qu'on achète a augmenté. Et,
qu'est-ce qui a augmenté?
Eh bien par exemple, là aujourd'hui je vais recevoir un camion de tourteau de colza pour mes vaches, pour complémenter la ration. En 2007, quand on s'est installé, ça valait 160 euros. Aujourd'hui, il vaut 340.
Mais pourquoi le plus du double? Pourquoi en 8 ans, plus du double?
Eh bien, pourquoi? Parce que au début, c'était un sous-produit. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire du lait avec du tourteau de colza. Et comme il y a eu des démarches de non-OGM, parce que moi, dans notre cas, on est non-OGM, notre ferme est non-OGM. Donc, nos vaches, elles ne savent pas ce que c'est que l'OGM, puis elles s'en portent bien. Et parce qu'on a un cahier des charges qui fait que... Mais donc, il y a une demande, et les industriels se sont dit, attention, si la demande est là, pouf, moi, pour avoir la traçabilité comme quoi... Mon tourteau est non OGM, je demande une feuille et on me met 10 euros de plus de la tonne.
Simplement donc le tourteau de colza, il sert à quoi le tourteau de colza?
Eh bien, à équilibrer la ration. C'est comme si aujourd'hui, vous qui aimez bien la viande, vous mangiez que de la viande rouge, quoi. C'est très bien, hein, mais il faut autre chose avec. Donc mes vaches mangent du foin, mais il faut quelque chose de l'azote pour équilibrer la ration.
Et vous avez combien de vaches?
Aujourd'hui, on a 70 laitières.
On demandait tout à l'heure le chiffre d'affaires à Marina. Elle a répondu 48 000 euros. Vous, le chiffre d'affaires d'une ferme comme la vôtre avec votre frère, il est de combien?
On doit être dans les 300 000 de tête.
Et sur ces 300 000 euros, il y a quasiment autant de dépenses.
Ben oui.
Bah vous dites, oui, moi je suis pas quoi, je le sais pas, hein, c'est pour ça que je pose la question.
Le problème, il est les fermes se regroupent, donc forcément, il faut remonter des bâtiments, tout augmente quand même.
Ça j'ai bien compris. Mais la vie, par exemple, la vie que vous avez, Marina dit, je prends jamais l'avion, j'ai jamais été visiter une ville, je vais évidemment pas en vacances. Vous, c'est la même chose?
Bah oui.
Donc il n'y a pas de vacances. Par exemple, en 2020, vous n'avez pas pris une journée de vacances?
Ah non, cette année, en 2020, non.
Vous n'avez pas quitté la ferme une fois?
Non, je crois pas, non. Non.
Mais quand je dis que vous avez des vies fascinantes et que les gens qui nous écoutent, personne ne vit plus comme vous aujourd'hui, monsieur Nicolas?
Monsieur Nicolas, oh, reste programme.
Non mais Nicolas, mais c'est vrai, personne ne vit comme vous. Personne ne vit comme vous. Personne ne reste. Moi, je ne reste pas à RTL 365 jours sur 365. D'abord, ils me vireraient. Ils en auraient marre. Ils me mettraient dehors. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est même fascinant, en fait, votre vie.
Non, c'est pas fascinant. C'est pas fascinant, c'est loin de là. C'est tellement compliqué qu'on peut pas avoir de second. On peut pas embaucher. C'est pas l'envie qui nous en manque de partir.
Mais la vie sociale, par exemple, est-ce que vous êtes allé en 2020 une fois au cinéma? Alors je sais que c'est la mauvaise année puisque les cinémas sont fermés. Est-ce que vous êtes allé dîner un soir avec des amis, tout simplement ça?
Ben non.
Mais pourquoi?
Mais pourquoi? Parce qu'on est déjà dans des coins où on est, enfin, je suis pas grand monde. Et puis on court.
Vous vivez avec votre frère, quoi, sur le même lieu?
Mon frère a son chez lui, moi j'ai mon chez moi.
Oui, hein. Mais vous êtes sur le même emplacement, je veux dire quoi, sur
oui, bien sûr.
Et vous avez vos compagnies respectives, peut-être?
Pas pour moi, mais bon, c'est pas grave.
Bon, et il y a des enfants?
Mon frère, oui.
Et vous, pas d'enfants?
Non.
Donc c'est vrai que c'est des vies où vous êtes très souvent seul quand même. Seul avec les bêtes.
Ben oui, mais seul avec les bêtes. Le tout, il est qu'on ne peut pas se dire, allez, notre exploitation, elle est vraie, on pourrait dire on embauche quelqu'un, mais ça fait encore 35 000 euros de plus. Et puis la personne qu'on embauche n'a pas un gros salaire.
J'entends bien. Et vous écoutez Karine Le Marchand de temps en temps dans l'émission L'Amour?
Vous me l'avez déjà dit, ça. Vous me l'avez déjà
vous étiez venu déjà au téléphone?
Ben oui.
Quand est-ce que je vous avais eu? Parce que là parfois je me souviens et parfois je me souviens pas de tous les auditeurs.
Oh, ben c'était une histoire de salon et puis je sais plus quoi.
C'était il y a combien de temps?
Dans les mêmes dates.
C'était l'année dernière?
Ouais, ça se peut bien, ouais.
Bon, et ben alors, vous voulez que je vous donne son numéro?
Non, ça va aller.
Mais est-ce que vous regardez précisément L'Amour est dans le pré, par exemple?
Ben non, ouais.
Ah, vous êtes, pourquoi? Vous êtes crevé?
Oh, c'est bof.
Alors c'est comme c'est un produit de la maison, on va pas en dire du mal parce que je l'aime beaucoup.
Bon, bah
et
alors,
le produit
c'est très bien,
et Karine.
Mais j'obtiens pas, quoi.
Donc non, mais je trouve que c'est bien justement. Je trouve que c'est une bonne émission. Bon, Nicolas, merci de votre témoignage. Alors mais... c'est une question. Je vais vous poser une question bête. J'ai le droit ou pas?
Bon, bah allez-y.
Bon, est-ce que vous êtes heureux?
Bah oui.
C'est la meilleure. D'abord, c'est la meilleure réponse à une question bête. Parce qu'en fait, elle n'est pas bête. Est-ce que vous n'imaginez pas dans la vie, vous n'auriez pas pu faire autre chose que ce que vous faites?
On a fait autre chose. Parce que moi, nous, on a un parcours un peu atypique. On faisait partie des gamins qui écoutaient leurs parents. Donc, ils nous ont dit, vous ne faites pas agriculteur. Donc, on est parti dans des métiers autres. On a fait 10 ans à côté, puis on est revenu sur la ferme.
Ben oui, parce que vous vous ennuyez, parce que vous étiez né dedans.
Mais on est né dedans. Mais le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que hier, quand le président a annoncé qu'il faut soutenir les agriculteurs
qui
nous nourrissent...
Oui, ça c'était bien.
Mais c'est du pipeau.
C'est du pipeau, vous êtes parents. C'était au moins... c'est une manière de dire... Vous êtes tellement attaqué, il y a tellement du bashing que vous avez un président qui dit « Attention, arrêtons de taper sur les agriculteurs ».
Oui, ça c'est gentil. Non, mais je veux dire par là, on a fait une loi, la loi Egalim, qui devait payer les producteurs au juste prix. Eh ben, ça n'a jamais été appliqué.
Alors cette loi Egalim, c'est un peu technique, c'est vrai, mais
oui, mais elle n'a jamais été appliquée. Puis l'autre jour, les grandes surfaces ont annoncé pour payer le prix du lait aux producteurs comme il faut, on va baisser le prix de la charcuterie. Alors, c'est encore pour diviser le monde agricole, ça.
Bon, la pub, on vous dit au revoir, Nicolas, et on vous remercie, vous aussi, pour ce témoignage qui était formidable. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier.
C'est moi. Y a-t-il un manque d'autorité parentale? Les jeunes sont-ils de plus en plus violents? Nous vous avons posé ces questions ce midi après le décès de deux adolescents lors d'affrontements entre bandes rivales dans le département de l'Essonne. Mathieu a été le premier à réagir.
Tous les ados, il y a beaucoup de moments de frustration, de crise, d'incompréhension. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait raté? Et ça peut pas être que les parents, voyez-vous.
David a poussé aussi un bon coup de gueule.
Maintenant, il n'y a plus de respect. Les jeunes, ils s'appellent gros, ils s'insultent et tout ça. Il n'y a plus de respect. Les jeunes ne se respectent plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme exemple? Eh ben, ils ont les grands frères qui, bon, ben, eux, ils ne jouent pas avec les couteaux, ils jouent peut-être avec les pistolets ou les kalachnikovs.
Cédric est policier, il a travaillé dans le département de l'Essonne. Quelle est sa solution pour arrêter ces affrontements entre bandes de jeunes?
Ce qu'il faut faire, c'est déjà remettre tout le monde au milieu d'une table, autour d'une table. Les parents, les éducateurs, nous-mêmes, les policiers. Moi, je suis parent également, je suis père de famille. Se remettre tous autour d'une table et discuter.
Des jugements sur les jeunes qui ont énervé Jean-Marie.
Là, je suis assez choqué de l'image qu'on a de nos jeunes. La jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus beau. On stigmatise, en fait, une poignée de jeunes délinquants. Et on généralise sur la jeunesse française.
Sinon, Cédric nous a apporté une autre analyse sur la jeunesse.
Celle-là, il faut qu'elle arrête de chanter « L'école est finie » parce que les jeunes le prennent au mot. Hein. Enfin, je ne sais même pas si la connaissent d'ailleurs. Non, c'était une boutade.
C'était une boutade. Donne-moi ta main et prends la mienne.
Allez, il est temps pour nous, Pascal, de quitter Paris.
Allez, hop, tout le monde à la campagne.
Le métier d'agriculteur fait-il encore rêver? Pas sûr, si l'on en croit Jean-Hervé céréalier.
On sait que quand on commence une journée, on sait qu'on a perdu de l'argent le soir. J'ai pas de salaire. Heureusement que ma femme travaille à l'extérieur.
Et l'agriculture, c'est une histoire de famille pour Marina. Elle a repris la ferme de son père lorsqu'il est parti à la retraite.
Vous avez l'impression de vivre mieux ou moins bien que votre père?
Ah mais beaucoup moins bien. Mais même mon père, à la fin, pourquoi il a continué jusqu'à 73 ans pour une retraite de misère? Non,
c'est-à-dire,
mais surtout pas.
Vous connaissez le montant de sa retraite, par exemple?
Elle n'est même pas 700 euros, après avoir travaillé toute une vie. Il est usé, ma mère est usée, les gens de la Terre sont des gens usés.
Et on ne peut pas terminer le débrief sans votre coup de gueule du jour, Pascal.
J'ai payé un litre d'essence 2,02 €. Il y a 4 jours quand je fais le plein. Dans Paris, je le paye 1,30 € sur l'autoroute ou 1,40 €. Dans Paris, on paye ça 2,02 €. J'ai l'impression que vous m'êtes fait avoir par ma station-service.
Et puis, on n'oubliera pas non plus aujourd'hui votre appel à témoignage.
On pourra parler également du temps aussi, parce qu'il fait tellement beau. Peut-être que nos auditeurs ont envie de nous appeler d'une plage de l'Ouest. C'est peut-être la dernière journée où il fait aussi beau.
Bon, résultat. Et vous avez posé enfin la question piège à notre réalisateur Boris.
Est-ce que vous savez traire une vache, monsieur Boris?
Jamais.
Et oui, une information exclusive pour les auditeurs. La parole. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui fait danser jour et nuit, Pascal Pro.
Et 14h27, et Flavie Flamand, qui vient d'entrer dans son studio, me dit qu'elle sait traire une vache. Elle est très printanière aujourd'hui, Flavie.